VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 18 décembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Niger, le président Mahamadou Issoufou prononce un discours dominé par le péril djihadiste à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance du pays.
Visite du président français Emmanuel Macron le 22 décembre à Niamey pour rencontrer son homologue nigérien à la suite de l'attaque djihadiste d'Inates.
En Côte d'Ivoire, ouverture ce mercredi du procès de l'ex-chef des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, pour actes de torture, homicide volontaire et viol.
En République démocratique du Congo, des partisans de l'ancien président Joseph Kabila ont contesté la mesure de rappel définitif de 3 ambassadeurs nommés par M. Kabila et qui sont accusés de manquements graves.
Ici à Washington, c'est en principe aujourd'hui qu'est attendu le vote historique de la Chambre des représentants sur la mise en accusation du président Donald Trump.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le Niger célèbre ce 18 décembre le 61e anniversaire de la proclamation de la République. Cette célébration intervient dans un contexte difficile pour le pays, confronté aux multiples attaques terroristes le long de ses frontières avec le Mali notamment. Cette situation a dominé l'adresse à la nation faite à cette occasion par le président Issoufou Mahamadou. Notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
L'attaque du camp d'Inates le 10 décembre dernier par les éléments de l'État islamique du Grand Sahara qui a causé la mort de plus de 70 soldats nigériens a occupé une bonne partie du message à la nation du président Issoufou Mahamadou à l'occasion de ce 61e anniversaire de la République. Elle vient rappeler, selon lui, aux plus sceptiques que le pays est en guerre et que nous devons plus que jamais nous unir. Les autres sujets évoqués sont les effets néfastes du changement climatique sur le pays, la diplomatie gagnante ou encore les élections générales de 2020-2021.
Ces élections seront un test important pour notre pays. L'enjeu est de taille, car pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un président démocratiquement élu passera le témoin à un autre président démocratiquement élu. Je réaffirme mon engagement à faire en sorte que les prochaines élections soient libres, démocratiques et transparentes. Je réitère à nouveau. Mon appel à toute la classe politique en vue d'un dialogue sincère dans l'intérêt de notre pays.
Cette année, les festivités de la commémoration de la fête de la République, notamment le grand défilé civil et militaire, se déroulent comme par ironie dans le chef-lieu de la région de Tillabéri, régulièrement frappé au niveau des localités frontalières avec le Mali par les attaques des groupes terroristes, un défilé auquel le président Issoufou Mahamadou assiste ce mercredi. Abdulrazak Idrissa a Niamey pour VOA Afrique.
Niger toujours, le président français Emmanuel Macron effectuera le 22 décembre une courte visite à Niamey pour rencontrer son homologue Mahamadou Issoufou. Il sera question de la réunion prévue le 13 janvier à Pau, dans le sud-ouest de la France, avec ses homologues des cinq pays du Sahel. Selon l'Élysée, M. Macron doit passer quelques heures sur place pour une cérémonie d'hommage aux 71 soldats nigériens tués durant l'attaque djihadiste du 10 décembre contre des troupes nigériennes à Inates. Le président français effectuera ce déplacement juste après sa visite officielle en Côte d'Ivoire les 20 et 21 décembre.
La Côte d'Ivoire, où Charles Blé Goudé, ex-chef des jeunes patriotes, sera jugé à partir de ce mercredi pour actes de torture, homicide volontaire et viol, ont annoncé hier ses avocats. Le point avec Eric Manirakidza.
La justice ivoirienne va juger Charles Blé Goudé en son absence puisqu'il est en liberté conditionnelle aux Pays-Bas. Selon Maître André Claver, l'un de ses avocats, Charles Blé Goudé n'est pas en fuite. Il ne se soustrait pas à la justice ivoirienne, estimant qu'il s'agit d'une violation flagrante de son droit élémentaire à un procès équitable qui requiert la présence de l'accusé. Il est à la Cour pénale internationale par l'action des autorités ivoiriennes, a-t-il ajouté. Son parti, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, a dénoncé un harcèlement politique. Récemment, le président Alassane Ouattara a réfuté l'information qui est reprochée à son gouvernement d'avoir demandé à la CPI le maintien en détention de son prédécesseur, Laurent Gbagbo. Monsieur Blegoudé et l'ex-président Gbagbo ont été acquittés par la CPI. Ils sont en liberté conditionnelle dans l'attente de l'examen de l'appel, de la procédure, de la procureure Fatou Ben Souda. Ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire tant que cette procédure n'est pas terminée.
En Algérie, Abdelmadjid Tebboune, vainqueur au premier tour de la présidentielle du 12 décembre, prendra ses fonctions demain pour un mandat de 5 ans. Sa prestation de serment aura lieu lors d'une cérémonie publique à Alger. Le point avec Abdourahman Dia.
La Constitution prévoit que le président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la nation dans la semaine qui suit son élection. Abdelmadjid Tebboune succède à Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission en avril après 20 ans à la tête du pays, emporté par un mouvement de contestation populaire inédit. Le Hirak, qui agite l'Algérie depuis le 22 février, rejetait l'organisation du moindre scrutin, réclamant le démantèlement de ce qu'il appelle le système et son remplacement par des institutions de transition. Au lendemain de son élection, M. Tebboune a tendu la main aux contestataires. Il a proposé un dialogue afin de bâtir une Algérie nouvelle et mettre fin à la crise. Mais dès vendredi, et une nouvelle fois hier mardi, une foule nombreuse a conspué le président fraîchement élu, réaffirmant que le mouvement de contestation va se poursuivre contre un régime qualifié d'illégitime.
En Libye, courte visite hier à Tripoli du ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio pour une rencontre avec Fayez al-Sarraj, le chef du GNA soutenu par l'ONU. Monsieur Di Maio aurait renouvelé le soutien de l'Italie à ce gouvernement ainsi qu'aux efforts de l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, pour une reprise du processus politique. Il a également été question de la conférence internationale sur la Libye prévue début janvier à Berlin et aussi de l'immigration clandestine, de l'économie et de la sécurité. Après Tripoli, M. Di Maio devait se rendre à Benghazi pour rencontrer le maréchal Khalifa Haftar, dont les forces mènent depuis avril une offensive contre Tripoli.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, républicains et démocrates ont serré les rangs avant le vote historique de la Chambre des représentants, prévu en principe ce mercredi sur la mise en accusation du président Donald Trump. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
La Chambre des représentants contrôlée par les démocrates va passer au vote la mise en accusation du président Donald Trump pour abus de pouvoir et obstruction au travail du Congrès. Après les derniers réglages techniques, ce vote historique pourrait avoir lieu dès aujourd'hui. Selon un sondage CNN-SSR, 45% des Américains souhaitent la mise en accusation et 47% y sont opposés. Donald Trump est quasi certain d'être renvoyé en procès devant le Sénat, sans doute en janvier prochain. Il risque d'être exonéré car il faut les 2/3 du Sénat pour le destituer. Les républicains disposent de 53 sur les 100 sièges de la haute chambre. Leur leader Mitch McConnell ne fait aucun mystère sur ses intentions. Il a déclaré hier que les démocrates ont bâclé leur enquête et sont loin d'avoir atteint la barre nécessaire pour renvoyer en procès un président légitimement élu et encore moins pour le destituer. Il a rejeté la demande des démocrates de convoquer de nouveaux témoins.
De son côté, le président Trump a lancé une violente charge contre l'opposition démocrate qu'il accuse de se livrer à une guerre ouverte contre la démocratie. Dans un courrier au vitriol adressé à la présidente de la Chambre basse, M. Trump a accusé Nancy Pelosi de miner la démocratie. « L'histoire vous jugera sévèrement », lui a-t-il prédit, en dénonçant ce qu'il a appelé des charges fourbes, sans valeur ou encore absurdes. Pour lui, le vote à la Chambre des représentants n'est rien de plus qu'une tentative de coup d'État illégal et partisane, motivée par le ressentiment. « Vous êtes incapable d'accepter le verdict des urnes en 2016 », a-t-il encore écrit à Mme Pelosi.
La Chine a appelé mardi le Conseil de sécurité de l'ONU à soutenir une proposition sino-russe de réduction des sanctions visant la Corée du Nord, sous réserve que ce pays avance vers la dénucléarisation. Pyongyang a fait ces dernières semaines une série de déclarations véhémentes et fixé à Washington l'ultimatum pour la fin 2019, lui promettant, faute de progrès dans leurs discussions, je cite, un cadeau de Noël. Le président Donald Trump a déclaré à Washington qu'il serait déçu si quelque chose était en préparation.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Irénée Herman Ungbo.
L'Union européenne a accordé un appui budgétaire d'une valeur de 16 milliards de francs CFA au Burkina Faso dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel. Cet appui financier a pour objectif de financer les secteurs de développement tels que la santé, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'agriculture durable, l'eau, la sécurité et la gouvernance. Agribusiness Capital Fund a réalisé son premier investissement en Afrique. EBC Fund, qui est placé sous la gestion de Bamboo Capital Partners et Indiaro Investment, a investi au sein de Socac Katana, une coopérative de cacao basée en Côte d'Ivoire. L'investissement permettra de soutenir plus de 2700 producteurs de cacao. En RDC, les autorités d'une province minière du Sud-Est ont annoncé la délocalisation d'une cité construite sur une mine de cobalt dont les abondantes réserves estimées pourront soutenir le budget de l'État relevé à 10 milliards de dollars. Safe Morocco Growth Fund a acquis une participation dans le capital de Sowit, une start-up qui accompagne les agriculteurs en leur fournissant des informations dont ils ont besoin pour optimiser leur production. Selon Ecofin, les fonds alloués serviront à renforcer l'offre de produits et services proposés par Sowit et à soutenir son expansion en Afrique.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Classico Barça-Real se joue ce soir.
Oui, ciblé par des manifestations indépendantistes, le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid en Catalogne s'annonce lourd de tensions, mais aussi d'enjeux sportifs. L'éventuel vainqueur au Camp Nou sera le nouveau leader du championnat d'Espagne, accroché ce week-end à Saint-Sébastien pour les Catalans 2-2 et à Valence pour les Madrilènes 1-1. Les deux rivaux abordent le Classico dans des dynamiques fragiles. Les deux clubs détiennent les deux co-meilleurs buteurs du championnat, Lionel Messi côté Barça et Karim Benzema côté Real, 12 buts chacun. Toutefois, chacune des deux équipes a perdu un élément offensif important avec les absences sur blessure du Madrilène Eden Hazard et du Catalan Ousmane Dembélé. Selon la Liga, 650 millions de téléspectateurs suivront ce match. Coup d'envoi 19h, temps universel.
Flamengo premier qualifié pour la finale du Mondial des clubs.
Les Brésiliens se sont imposés 3-1 face à Al Hilal lors de la première demi-finale et joueront le titre contre le vainqueur de l'autre demi entre Liverpool et Monterrey, prévu aujourd'hui. Récent vainqueur de la Copa Libertadores et nouveau champion du Brésil, Flamengo visera samedi le deuxième titre mondial de son histoire après une victoire en 1981 en Coupe intercontinentale, l'ancêtre du mondial des clubs. Pour sa part, l'Espérance de Tunis a offert du spectacle hier lors de son match pour la cinquième place contre Al Sadd. Le champion d'Afrique s'est imposé 6-2 avec un triplé du Libyen Amdou El Ouni. Il devient ainsi le quatrième joueur à marquer un triplé dans la compétition derrière Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Luis Suarez.
Charlotte sera la 30e franchise de la MLS.
Et oui, la ville de Charlotte deviendra dès 2021 la 30e franchise du championnat nord-américain de football. L'équipe jouera au Bank of America Stadium, 75 000 places, en pleine expansion depuis sa création en 1996 avec 10 franchises originelles. La MLS s'est disputée à 24 formations cette année, un championnat remporté par les Seattle Sounders.
Début de l'élite 16 du Basket Africa League en Afrique de l'Est.
Oui, c'est à Kigali que se déroule la compétition de l'élite 16 du Basketball Africa League 2020. Dans le groupe A, les hôtes des Patriots BBC, les Malgaches de GNPC, les Zambiens de Younes Pacers et les Tanzaniens de JKT BBC s'affrontent. Le groupe B regroupe Ferroviaro du Mozambique, Cobra du Soudan du Sud et City Oilers d'Ouganda. L'enjeu, les trois derniers tickets pour la saison régulière du Basketball Africa League qui débute en mars 2020. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Et puisqu'on parle de basketball, on y reste. Avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Eh bien, Charlotte et Sacramento, 110-102. Indiana et LA Lakers, oui, 105-102. New York et Atlanta, 143-120. Brooklyn et la Nouvelle-Orléans, 108-101. Utah et Orlando, 109-102. Et les Clippers et Phoenix, le match vient de se terminer. Le score est de 120-99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a dénoncé hier devant le Parlement, dans un discours sur l'état de la nation, je cite, « l'incivisme des populations et l'absence de sanctions ». En outre, le président congolais a déploré que les antivaleurs dont la corruption ne fassent pas réellement l'objet de sanctions. Des propos qui, selon Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville, étonnent les analystes qu'il a contactés.
Le président Denis Sassou Nguesso a dénoncé le manque de sanctions face aux antivaleurs dont la pratique est quasiment généralisée dans le pays. Selon le chef de l'État, chaque fois qu'ils en ont l'occasion, les Congolais vandalisent et emportent les biens publics. L'État a par exemple construit plus de 2500 forages pour apporter de l'eau à la population. Plus de la moitié de ces ouvrages ont été vandalisés en moins de 3 ans. Pour l'ancien ministre Alain Akwala, qui est également membre du PCT, le parti présidentiel, la dégradation de la situation sociale pourrait en être la principale cause.
Pour sortir de cela, il faut non seulement, c'est vrai, rétablir une certaine unité de l'État, mais surtout que notre pays arrive enfin à créer une sorte de perspective d'avenir, d'espérance pour les jeunes. Or, ces jeunes, aujourd'hui, n'ont pas véritablement un horizon.
La lutte contre la corruption ou les antivaleurs reste un créneau du chef de l'État congolais, même si les résultats sont à venir. Analysant cette partie du message, le politologue Constant Ebara Peya parle d'un aveu d'impuissance.
Tout système politique doit se reposer sur un certain nombre de piliers sur lesquels le système s'écroule. Le nôtre, malheureusement, a utilisé la corruption et la coercition, c'est-à-dire l'usage de la force et de la répression pour soumettre les individus. Ça se dit même dans les champs populaires, dans l'expression des champs populaires. On nous parle de tout ça au lien.
À l'opposition, Paulin Makaya, président de UNU pour le Congo, lui, s'est dit convaincu que la lutte contre la corruption n'aboutirait jamais si le chef de l'État ne la démarre pas réellement.
Mais la corruption dort chez le président. Le vol, la gabégie se trouve dans sa maison. Le pays est en train de disparaître. Le poisson commence à pourrir par la tête. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Mais d'abord, il faut qu'il punisse les hommes qui sont dans sa propre maison.
L'analyste économique Alphonse Ndongo rappelle que la lutte contre la corruption est une exigence du Fonds monétaire international dont le Congo est actuellement en programme triennal.
Le président lui-même ne prend pas le taureau par les cornes, un autre cas. Mais dans un pays où c'est la politique qui régente un peu tout avec le parti dominant, le PCT, quel est celui qui aurait la capacité de sanctionner administrativement quelqu'un sans se faire remonter les bretelles par les puissants?
Dans son discours, le chef de l'État a annoncé la reprise de l'économie nationale avec une croissance de près de 4% cette année. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Sénégal, Maître Madi Kenyang, un des candidats malheureux à la présidentielle de 2019, renonce à la politique et ce, sur ordre du Khalife général des Mourides, la communauté musulmane majoritaire au Sénégal. C'est le même guide religieux qui a été à l'origine de la réconciliation entre l'ancien président Abdoulaye Wade et son successeur Macky Sall. Il a aussi été l'acteur majeur de la libération de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Des faits qui montrent l'implication et surtout la forte influence des guides religieux au Sénégal, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay, qui est allé recueillir l'avis des populations sur la question.
Au sein d'une population fortement croyante, les guides religieux sénégalais bénéficient d'une grande influence, ce qui leur donne souvent un ascendant sur les hommes politiques. Ainsi, les khalifs des confréries sont souvent des acteurs phares dans des prises de décisions majeures. Une situation que Ndaye Aminata trouve tout à fait normale, car pour elle, les religieux sont les premiers guides dans la société sénégalaise.
Puisqu'ils ont cette possibilité de conscientiser la population, donc ils participent en quelque sorte à l'apaisement de la population. Par exemple, en temps de guerre, donc ce sont eux qui peuvent en quelque sorte discuter avec la population de telle sorte que celle-ci change les décisions. Donc ils ont un rôle phare à jouer parce que au-delà de la politique, il y a la religion. Et puis nous savons que nous sommes dans un pays vraiment où les gens accordent une grande importance à la religion.
Alun Badarondong abonde dans le même sens. Pour lui, les guides religieux sont des atouts non négligeables dans la marche républicaine et la stabilité du Sénégal.
Notre pays a une forte croyance religieuse avec nos différentes confréries. Et chaque confrérie occupe une place très importante, surtout dans la situation politique. Cela va juste stabiliser notre situation politique. Nous savons que les guides religieux sont vraiment influents et pour la prise de décision aussi, ça va juste aider les autorités étatiques, sachant qu'ils ont un atout concernant la soumission de leurs talibés. Donc je me dis que cette implication va juste renforcer notre politique et surtout la stabilité aussi. Ça va beaucoup compter sur la stabilité politique de notre pays.
Au-delà des khalifs, des confréries qui font office de régulateurs de la société, certains guides religieux vont jusqu'à s'engager en politique en créant des partis. Une situation complexe qui peut amener des tensions, d'après Pape Coulissard.
Il y a des règles en politique qui font que un religieux dans un combat politique ou avec une connotation politique, ça peut être quelque chose de très 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 dangereux. Parce qu'en réalité, dans notre conception, l'homme religieux n'est pas critiqué. Puisque quand un homme religieux est critiqué, on dit dangay dingat. C'est très dangereux de le faire. Mais un homme politique, est-ce qu'il doit être critiqué? Absolument oui. Oui et oui et oui. Puisqu'un homme politique doit absolument être critiqué et qu'un homme religieux ne doit absolument pas être critiqué, la combinaison homme politique et homme religieux devient une combinaison plus difficile à gérer puisqu'on ne saura pas s'il faut le critiquer ou pas.
Avec une population fortement ancrée dans les croyances religieuses, le Sénégal est un pays où les recommandations des guides religieux sont souvent très suivies par tout un chacun. Une situation à laquelle n'échappent pas les personnalités politiques. Et pour les populations, cela participe fortement à la stabilité du pays. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le G5 Sahel, réuni en sommet extraordinaire à Niamey, appelle la communauté internationale à plus d'engagement dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Un appel lancé après la mort de 71 soldats nigériens à Inates, l'attaque la plus meurtrière visant l'armée nigérienne depuis 2015. Quelle stratégie face aux groupes armés dans le Sahel? Quel rôle pour la communauté internationale dans cette lutte contre le terrorisme? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Ici à Washington, la Chambre des représentants doit voter en principe aujourd'hui la mise en accusation du président Donald Trump. La Maison-Blanche, pour sa part, se concentre plus sur le Sénat dominé par les Républicains, le Sénat qui doit juger le président. Patsy Widakuswara, correspondante de La Voix de l'Amérique à la Maison-Blanche, revient sur la stratégie de M. Trump et de ses alliés dans ce reportage que reprend ici Lionel Gahima.
Le mois de décembre est généralement un moment de fête et de joie. Mais à la Maison-Blanche, ce n'est pas l'esprit de Noël quand on se prépare à une bataille. Cette semaine, la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates doit voter la mise en accusation du président Donald Trump pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès. Il s'ensuivra un procès au Sénat où les démocrates veulent entendre plus de témoins, y compris le secrétaire général de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, et l'ancien conseiller de la sécurité nationale, John Bolton, Chuck Schumer, leader de la minorité démocrate au Sénat.
Ils pourraient présenter des preuves à des charges qui exonèrent le président. Cela peut être aussi incriminant pour le président, mais ils devraient être entendus.
Jusque-là, la stratégie de la Maison-Blanche a été de bloquer, qualifiant les enquêtes de la Chambre de processus partisan. Le procédé a été efficace pour maintenir le soutien de la base de Trump. Todd Belt est professeur à l'Université George Washington.
Tant qu'il maintient sa base et que les gens restent fidèles au président, alors les sénateurs se diront, eh bien, ça ne sera pas bien de rompre avec le président si je me présente aux élections.
Maintenant que le processus se déplace vers le Sénat dirigé par les Républicains, la stratégie de la Maison-Blanche change en de meilleures relations avec les Républicains pour aller rapidement au procès et limiter les dégâts politiques. Le président Donald Trump.
J'ai écouté Mitch McConnell, j'ai écouté Lindsey Graham. Je pense qu'ils sont tout à fait d'accord sur un concept. Je ferai tout ce qu'ils veulent faire, peu importe.
Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a promis une coordination totale avec l'administration. Ses critiques l'accusent d'avoir violé son devoir d'impartialité. Vanessa Bisley est professeure à l'Université Vanderbilt.
C'est une stratégie qui a bien marché pour McConnell dans le passé pour aller de l'avant et signaler ses allégeances, signaler ce qu'il va faire et ce qu'il ne va pas faire. Il parie sur ce que les républicains veulent faire et le dit maintenant.
Autre stratégie, continuer d'attaquer le candidat démocrate Joe Biden comme corrompu pour avoir permis à son fils de siéger au conseil d'administration d'une société énergétique ukrainienne lorsqu'il était vice-président. Ces accusations peuvent fragiliser Biden. Pour sa part, Joe Biden rejette les demandes qu'il témoigne au procès de Trump comme un stratagème visant à détourner l'attention du public.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Pour terminer, l'artiste ivoirien Mei Wei a célébré ses 30 ans de carrière à guichet fermé en Côte d'Ivoire le week-end dernier. Prochaine destination de cette célébration, Accra au Ghana. Mei Wei entamera par la suite une tournée dans d'autres capitales africaines, puis européennes et américaines. Joint à Abidjan par Eke Abadou, le professeur Awolowo, un des surnoms de Mei Wei, revient sur son parcours.
Je tiens tout d'abord à remercier tous mes fans, remercier aussi toutes les autorités ivoiriennes qui se sont associées à cette célébration marquant mes 30 ans de carrière. Je suis soulagé d'avoir connu cette adhésion populaire pour célébrer ces 30 ans de carrière et pour surtout m'honorer vivant. Quand je commençais à embrasser le métier dans le monde professionnel en 89, j'avais été inspiré par la musique camerounaise, que le Makossa régnait à l'époque. Et puis il y a quelqu'un qui arrive, qui dérange un peu tout le monde et qui dit « bon voilà, je vous apporte autre chose ». C'est Sam Fantomas. J'ai comme ça façonné ma musique en essayant de faire comme eux, comme ces faiseurs de Makossa et de Makassi, en m'appuyant sur la tradition ivoirienne, la tradition Zima en particulier, dans le sud de la Côte d'Ivoire, pour mettre en avant mon zoblazo.
Dans chaque mariage, quelle que soit l'origine africaine des personnes, il y avait ce titre Zoplazo avec nos mouchoirs. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile de faire 30 ans de carrière? Car certains imaginent que c'est facile. Est-ce que vous pouvez nous faire un témoignage concernant ces 30 ans?
Beaucoup de personnes croient que on travaille dans un hamac, quoi, et que nous sommes des enfants gâtés de toutes les professions. Non, pas du tout. On peut faire un tube dans ce métier pour perpétuer les succès, pour faire succéder les tubes. C'est pas si évident que ça. Donc 30 ans de carrière, être toujours constant, être toujours dans l'actualité, c'est le plus difficile à faire. Et moi, j'y m'y suis attelé par force de travail, par persévérance et puis par mise à jour, parce que je me suis toujours dit que j'étais pas parfait. Donc chaque fois qu'il y avait des tendances et chaque fois qu'il y avait des nouveautés ou de nouvelles musiques qui arrivaient, je m'en inspirais pour faire évoluer ce que je faisais. Je suis un africaniste, je suis un africain très fier de son continent, qui a même les deux pieds ancrés dans la tradition. En Afrique, on a des valeurs, mais ces valeurs, on n'en a pas conscience, on n'en prend pas soin. À force de vouloir copier sur l'Occident, à force qu'on nous impose tout ce qui vient d'ailleurs, on est un peu perdu. La femme avec les lolos, ce sont des valeurs. Et on aime ça. Pourquoi on ne protège pas ça? Moi, j'ai décidé de protéger ça en chanson.
L'artiste ivoirien Mei Wei, joint à Abidjan. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.